بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 82 dans le sharh de Kitab al-Tawhid du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est arrivé, aujourd'hui on commence un nouveau chapitre qui s'intitule « Babun ma ja'a fi ruqa wa tama'im » c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été mentionné dans les hadiths au sujet de « Ar-ruqa wa tama'im ». « Ar-ruqa » c'est le pluriel de « ruqya » donc les choses qu'on récite pour la guérison ou les incantations, la récitation des versets, des doigts. Et At-Tama'im, c'est le pluriel du mot Tamima, c'est-à-dire les amulettes. Et on va lire tout ce qui a été mentionné dans les hadiths à ce sujet. Et c'est la suite, si on veut, du chapitre précédent, le chapitre 7. Aujourd'hui, donc, c'est le début du chapitre 8. Et dans ce chapitre, il y a plusieurs narrations des Sahaba. Il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des paroles des Sahaba et des Salaf sur la question. Et donc, on va lire qu'est-ce que les ulama ont dit là-dessus par la suite, Inch'Allah. Donc, on commence avec la lecture du chapitre de Kitab al-Tawhid, les hadiths et les narrations. Et ensuite, on commencera l'explication, Inch'Allah. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit « Fais sahih » an Abi Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah » صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن حكيم ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc ça c'est le chapitre qu'on vient de lire. Donc on va traduire ça. Rapporté premièrement dans le Sahih selon Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu qu'il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager pour dire aux gens de ne pas laisser dans le cou d'aucun chameau ou d'aucun animal un collier ou bien un collier quelconque, peu importe de quelle matière ou de quelle sorte, que ce soit une corde ou autre chose, excepté qu'elle devait être coupée. Parce que les gens mettaient des colliers ou des cordes autour du cou des animaux ou des bêtes, dans le but de les protéger contre le mauvais œil. Et ça fait partie du shirk. Un autre exemple, ensuite, il a cité le cheikh une parole de Abdullah ibn Mas'ud, ou bien plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, et qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ar-ruqa et at-tama'im et at-tiwala sont du shirk. C'est-à-dire ar-ruqa, c'est les formes de ruqya, les incantations ou les récitations, et c'est-à-dire les récitations de qu'est-ce qu'on récite sur quelqu'un lorsqu'il est malade ou lorsqu'il a l'ayn ou des choses de ce genre, mais qui ne fait pas partie de ce qui est rapporté dans le Coran ou dans la Sunna. Donc de faire par exemple des incantations avec de la sorcellerie ou du sihr ou des choses dans lesquelles il y a du shirk. Donc ça c'est un exemple. Également at-tama'im, c'est-à-dire les talismans, les amulettes. At-tiwala, c'est des formes de sorcellerie aussi. Des sortes de magie, des sortes de sorcellerie que les gens font pour essayer de faire en sorte que un homme aime sa femme ou qu'une femme aime son mari. Donc c'est comme des genres de potions là, ou de, je sais pas comment on appelle, mais c'est-à-dire ce genre de magie là, ça fait partie du shirk. Toutes ces choses là font partie du shirk. Il est également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abdullah ibn Ukaym, quiconque accroche quoi que ce soit, eh bien il sera laissé à cette chose, il sera abandonné à cette chose. C'est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Et ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne donc les quelques définitions des termes qui sont mentionnés. Il dit par exemple que At-Tama'im, c'est ce qui est accroché sur les enfants, les talismans qui sont accrochés sur les enfants, les amulettes qui sont accrochées sur les enfants pour les protéger contre le haïn. Et c'est pas seulement sur les enfants en fait, même sur les adultes aussi. Mais le cheikh il mentionne ici, il spécifie les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des gens qui utilisent ça sur les enfants aussi. Et il dit, peu importe de quoi cette amulette ou cette amulette est faite ou de quoi elle est composée, même si c'est avec du Coran. Donc Cheikh il clarifie que parmi les salafis, il y en a qui avaient permis d'utiliser le Coran pour faire des amulettes, et d'autres qui l'ont mentionné parmi ce qui fait partie des choses interdites. Comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il ne fait pas de distinction entre les amulettes qui sont écrites ou qui sont faites avec du Coran ou autre. Il considère que tout ça c'est interdit. Et ar-ruqa, c'est les incantations que les gens récitent. Et la preuve ici, elle est mentionnée par rapport à ce que des gens font comme incantations qui sont basées sur autre que la révélation. C'est-à-dire sur autre que le Coran et la Sunna, comme les incantations dans lesquelles il y a du shirk. Et at-tiwala, c'est ce que les gens font, comme ils donnent l'explication ici, ce que quelqu'un fait pour faire en sorte qu'un homme aime, une femme aime son mari, ou bien qu'un mari aime sa femme, ou pour qu'un homme aime une femme, c'est ça. Warawa Ahmad, il a rapporté également. L'imam Ahmad a rapporté selon Rouaifi' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Oh Rouaifi', peut-être que tu auras une longue vie. » Donc, informe les gens que quiconque fait des nœuds dans sa barbe ou bien accroche une corde, c'est-à-dire une corde qu'il se met au cou ou quelque part sur le corps avec des amulettes ou des choses de ce genre, ou un, des gens de porte-bonheur, ou bien qu'il fait l'istinja, il se nettoie avec des crottes d'animaux séchées, ou bien avec des ossements. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est innocent de cette personne. On va lire l'explication plus tard dans le charh de ces détails-là, qu'est-ce que ça signifie. Et rapporté également selon Saïd ibn Jubayr, qui a dit « Quiconque coupe une amulette que quelqu'un porte, eh bien c'est la récompense de ça sera comparable au fait de libérer un esclave. » Donc c'est comme si la personne avait émancipé un esclave en coupant une amulette que quelqu'un porte. Et la dernière narration qui est rapportée, selon Ibrahim, il mentionne qu'il dit ici qu'il détestait, en parlant des salafs, des tabi'in. Je pense qu'ici il s'agit d'Ibrahim al-Nakhai, un des tabi'in. Et il dit qu'il détestait les tama'im, c'est-à-dire les amulettes, kullaha, c'est-à-dire toutes les différentes amulettes, min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. C'est-à-dire, peu importe que ce soit écrit avec du Coran ou avec autre que du Coran, les salafs détestaient ça de façon générale. Donc, maintenant on va commencer à lire l'explication. Donc il dit, قَوْلُهُ Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, قَوْلُهُ بَابٌ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمْ أي مِنَ النَّهِي عن ما لا يجوز من ذلك. C'est-à-dire, le chapitre, c'est au sujet de ce qui a été mentionné dans la révélation et dans les paroles des sahaba et des tabi'in, et ainsi de suite, au sujet des incantations et des amulettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné comme interdiction à ce sujet, parmi les choses qui ne sont pas permises. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Il dit قد جاء فقد جاء في الباب السابق شيء من الأدلة على تحريم استعمال التمائم وأما الرقى ففيها التفصيل الذي سيكون ولذلك لم يجزم رحمه الله بأدلة التحريم رحمه الله لما في ذلك من التفصيل قال ما جاء من الرقى ولم يقل في تحريم الرقى وهذا من فقهه رحمه الله فإنه إذا كانت المسألة فيها تفصيل أو أن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأتي بالحكم وإنما يقول باب ما جاء في كذا ويأتي إن شاء الله في أثناء الباب تفسير الرقى وتفسير التمائم وتفسير التولة من كلام المصنف وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومشبه له لأن الباب الذي قبله باب من الرقى يعني لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهذا الباب مكمل له وهذا الباب مكمل له هو أيضا فيما يعلق من التمائم أو الرقى أو غير ذلك على الأبدان والدواب أو غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه لما في ذلك من الاعتماد على غير الله عز وجل وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا إما منقص للتوحيد إن كان من الشرك الأصغر وإما أنه مناف للتوحيد إذا كان من الشرك الأكبر. Donc ici le Cheikh il explique. Il dit ce qui est mentionné dans ce chapitre, ou bien plutôt dans le chapitre précédent, hein, on a vu les preuves de l'interdiction d'employer ou d'utiliser des amulettes. Hein, dans le chapitre précédent, on a vu ça. Tandis que Ar-Ruqa'a, il y a des détails. Il y a des détails au sujet de Ar-Ruqa'a, c'est-à-dire la Ruqya. Et c'est pour cette raison que l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, n'a pas mentionné dans le titre quelque chose de définitif ou de déterminant par rapport à Ruqa. Et pourquoi? Parce que justement, il y a des détails à mentionner au sujet de Ruqya. Hein, la Ruqya, il y a des détails là-dessus. Il y a des choses il y a des parties qui sont haram et il y a une partie qui est halal. Donc il faut détailler. Et donc c'est pour ça. Mais en ce qui concerne At-Tamaim, on a mentionné déjà dans le chapitre précédent ce qui a été dit sur ça. Mais pour la Ruqya, il y a des détails. Donc il n'a pas mentionné par exemple le chapitre au sujet de ce qui a été mentionné sur l'interdiction de At-Tamaim Ar-Ruqa et At-Tamaim. Pourquoi? Justement parce qu'il y a des détails. Donc il faut spécifier, il faut clarifier. Alors au lieu de dire l'interdiction, il a juste mentionné ce qui a été dit ou ce qui a été ramené au sujet de Ar-Ruqa pour justement laisser la place pour la clarification et les explications à ce sujet-là. Donc ça montre en même temps la compréhension de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab et que dans son titre, il y a une partie de son fiqh, de sa compréhension des textes, puisqu'il ne peut pas dire ici dans ce cas-là, par exemple, l'interdiction. Donc il mentionne seulement le fait qu'il y a des choses qui ont été rapportées à ce sujet-là. Et qu'il y a des détails à clarifier là-dessus. Et que parfois, sinon, c'est pas le fait que il n'y a pas d'interdiction. Il y a une interdiction, mais parfois l'interdiction en question, elle n'est pas pour le fait de rendre la chose illicite, mais seulement pour montrer ou pour clarifier que la chose, elle est déconseillée dans certains cas. Donc c'est pas dans certains cas, c'est s'il y a quelque chose qui n'est pas haram. Mais que c'est interdit, mais sauf que une interdiction qui indique que la chose est détestable et non pas illicite. Donc, dans des cas comme ça, les ulama, ils vont pas dire la chose de façon déterminante ou définitive, mais ils vont laisser justement le titre du chapitre un peu plus large, justement pour donner la chance de clarifier le jugement ou le verdict et détailler les choses dans le charh ou dans l'explication. Et c'est ce que l'imam a fait ici. Donc il a dit ce qui a été rapporté au sujet de telle ou de telle chose. Et vous allez voir que dans les autres chapitres, il y a d'autres exemples de ça aussi. Des chapitres dans lesquels l'imam, il dit « Ma ja'a fi kada », ce qui a été rapporté à propos de telle chose. Ou ce qui est venu à propos de telle chose dans les textes. Hein? C'est lorsqu'il y a des détails à donner ou des choses qui ne sont pas clarifiées ou disons qu'il y a des choses qui ont été clarifiées mais ça nécessite des explications plus détaillées. Alors il clarifie dans le charh, d'accord. Ensuite il dit que on va voir également inshallah à travers les définitions qui ont été données des différents termes qui sont mentionnés dans ce chapitre comme Ar-Ruqa et At-Tamaim et At-Tiwala, les détails sur ces sujets-là. Et il dit que ce chapitre est pour compléter ce qui a été dit avant dans le chapitre précédent, parce qu'il est semblable au chapitre précédent, ce chapitre, parce que dans le chapitre précédent, on a parlé des choses qui font partie du shirk, c'est-à-dire de porter par exemple des cordes ou des colliers ou des bracelets ou des choses de forme circulaire ou autre qui sont portées ou qui sont mises dans le but de repousser un mal ou de ramener un bien. Et donc, pour compléter et clarifie encore plus le sujet, il ramène maintenant ce chapitre-là dans lequel il parle de ce qui est accroché parmi les amulettes et de ce qui est récité comme yani incantation et ruqya. Hein, elle peut être parfois récitée. La ruqya, elle peut être parfois récitée. Elle peut être également écrite. Hein. Donc, peu importe, on va voir les détails là-dessus. Et le cheikh, il explique également que tout ce qui est accroché de ces choses-là sur le corps ou sur les animaux, sur les enfants ou autres, dans le but de, sur les maisons, les voitures, dans le but de repousser un mal, hein, ou de ramener un bienfait. Il dit, dans tous ces cas-là, ces choses-là sont, hein, sont pas permises parce que ça rentre dans le fait d'accrocher le cœur de la personne, hein, à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, et de se reposer sur autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, de mettre sa confiance sur autre que Allah. Et il n'y a pas de doute que cette chose-là est en contradiction avec le tawhid, soit dans le sens que ça diminue le tawhid, si c'est une forme de shirk mineur, ou que ça détruit complètement et oppose complètement, ou nie, ça nie complètement le tawhid dans le cas du shirk akbar. D'accord? Et on a déjà expliqué dans les chapitres, dans le chapitre précédent, la distinction entre ces deux exemples. Quand est-ce que c'est shirk akbar? Quand est-ce que c'est shirk asrar? On a parlé un peu de ça dans le chapitre précédent. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, donc il dit, c'est pour clarifier ce qui n'est pas permis dans ces choses-là. Cheikh al-Fawzan, il dit, « Ay, min al-nahi amma la yajouzu min dhalik. » وهذا هو كلام التفصيل أي ما منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز كما سيأتي. Donc c'est ça l'explication de l'interdiction dans qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis de ces choses-là. Il faut détailler. Il y a des choses permises, il y a des choses qui sont interdites, et donc il faut détailler. C'est pour ça que il a dit Mahja afirruqa wa tamaim. Ok, ensuite, le cheikh, il commence avec la première narration, le premier hadith. Il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, qawluhu fi sahih an abi Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, annahu kana ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarih. Fa'arsala rasulan an la yabqayan fi ruqbati ba'irin qiladatan min watarin, أو قلادة إلا قطعت وهذا الحديث في الصحيحين واسم أبي بشير قيس اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة وروى ذلك الحارث بن أبي أمامة ابن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ قوله لا يبقين بفتح الياء والقاف يحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون بضم الياء بضم الياء المثنى وكسر القاف والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا أخلولق أخلولق يعني رث من كثير الاستعمال وبلية يعني إذا إخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي. Donc on va lire ça maintenant. Cheikh il explique donc par rapport à ce hadith qu'il est rapporté dans As-Sahih selon Abi Bashir Al-Ansari radiyallahu anhu, qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages, et il a envoyé un homme comme messager pour dire aux gens de ne pas laisser rien accrocher dans le cou des bêtes, que ce soit une corde ou que ce soit quoi que ce soit d'autre comme collier, excepté que ça doit être coupé. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Abu Bashir, dans le hadith, on dit que son nom est yani Qais ibn Ubaid. Et ça, c'est Sa'd, ibn Sa'd, qu'il mentionne dans son livre. Tandis que Ibn Abdil Barr, il mentionne de son côté que il n'y a pas un nom qui a été trouvé, un nom réel ou authentique qui a été trouvé pour ce compagnon, dans le sens que il est connu par sa kunya, Abu Bashir al-Ansari, et on ne connaît pas son nom. Donc c'est Ibn Sa'd, il mentionne Qais ibn Ubaid, tandis que Ibn Abdil Barr, il dit on ne sait pas réellement son nom, on connaît sa kunya mais on ne connaît pas son nom. Il s'appelle Abu Bashir Naam al-Ansari, et c'est un sahabi qui a été présent dans la bataille de Al-Khandaq. On sait qu'il était dans la bataille de Al-Khandaq et il est mort dans les années 60, c'est-à-dire 60 ans après la Hijra. Après les 60 ans de la Hijra. Yuqal innahu tajawazul mi'a, c'est-à-dire certains ont dit qu'il avait même dépassé 100 ans. Donc, il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un compagnon comme messager, et c'était Zayd ibn Haritha, et ça a été rapporté par Al-Harith ibn Abi Usama dans sa Musnad, et c'est Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani qui le mentionne dans son Sharh de Sahih al-Bukhari. Il dit ensuite que dans le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yabqayanna, ça c'est une des lectures qui est permise par rapport à ce hadith, ce verbe, la yabqayanna, il dit bifath al-ya wal-qaf. Donc c'est-à-dire on peut le lire en mettant la fatha sur le ya et sur le qaf. Mais il est possible également de le lire d'une autre façon. On peut le lire avec la dhamma sur le ya et le kasra sous le qaf. Donc la yubqiyanna. Donc on peut dire la yabqiyanna ou la yubqiyanna. Les deux sont possibles. Et comme on va lire l'explication après, le Cheikh Al-Fawzan il clarifie certains points par rapport à la langue ici. Ensuite, en ce qui concerne Al-Watar, c'est avec deux fathas, le fatha sur le waw et le fatha sur le ta. Et c'est le singulier du mot Autar, Autar qui est le pluriel, Autar ou Al-Qaws. Donc c'est-à-dire les cordes qu'on met sur l'arc lorsqu'on veut tirer des flèches. Al-Qaws, c'est l'arc. Et Al-Watar, c'est la corde qui est sur l'arc. Donc le Cheikh explique que dans la Jahiliya, les Arabes, lorsqu'ils avaient par exemple sur leur arc, il y avait la corde qui commençait à être usée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient la corde. Ils enlevaient la vieille corde et il la remplaçait par une nouvelle. Et avec l'ancienne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'accrochaient au cou de leurs bêtes, de leurs animaux, en croyant que ça les protégeait contre le mauvais œil. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que toutes les cordes qui étaient accrochées au cou des animaux soient coupées, à cause de cette croyance qui existait chez les gens dans la jahiliya. D'accord? Naam. Ensuite de ça, Naam. Donc là maintenant, le cheikh explique que il dit ولما كان اهل الجاهليه انهم وقوله او قلاده قطعت يحتمل ان ذلك شك من الراوي ولأبي داود وقلادة يعني بغير شك يعني فعلى الرواية تكون أو بمعنى الواو بمعنى الواو. Ok, donc dans la narration ici, ce qui est mentionné, c'est qu'il devait aller couper toutes les cordes accrochées au cou, et il dit ou une corde, soit tout ce qui est accroché au cou. Il y a une corde accrochée au cou, une corde d'arc accrochée au cou, ou n'importe quelle chose accrochée au cou. Et le cheikh, il dit que lorsqu'il dit ou une chose accrochée, c'est-à-dire peu importe laquelle. Et c'est comme si ici le cheikh il dit c'est possible que ce soit à cause d'un doute de la part du rapporteur de ce hadith là, ou bien dans la narration de Abu Daoud, c'est pas le au qui est utilisé dans le sens de ou, mais plutôt le waw, c'est-à-dire wala qilada, wala qilada, c'est-à-dire et aucun autre collier ou quelque chose accroché dans le cou. Donc ici le cheikh il dit il n'y a pas le doute dans cette narration de Abu Daoud, ce qui nous laisse voir que la narration qui mentionne avec le au, c'est dans le sens de al-waw, dans le sens de al-waw, c'est-à-dire et non pas ou. Ala kulli hal, on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan là, sur ce hadith. Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith là, il dit wa hadha al-hadith an Abi Bashir al-Ansari صحابي جليل قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا أي مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت لما كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون الإبل بالقلائد لدفع العين عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية المنافية للتوحيد لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله وأن لا يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الشرع لا مانع من الأدوية واتخاذ الوقاية لكن في حدود ما أباحه الشرع أن لا يبقين لا ناهية ويبقين فعل مجزوم بلا ناهية لا يبقين يعني ولكن منع من ظهور الجزم اتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهذه النون مؤكدة للنهي ولذلك سميت نون التوكيد فاجتمع عندنا مؤكدان لا الناهية ونون التوكيد الثقيلة لا يبقين في رقبة بعير قلادة والقلادة هي ما يحيط بالعنق سواء كان من الحيوان أو من الإنسان من وتر يعني الوتر هو وتر القوس وهو الشيء الذي يجعل في القوس لأجل الرمي لأن الآلة التي يرمون بها في ذاك الوقت هي القوس، والقوس عبارة عن عصا لين يثبت بشيء من طرفيه، ثم يعني يلف هذا الشيء وينحني يعني هذا القوس، ويكون في وسطه خرق يعني فيمد الوتر حتى ينطلق النبل مع الخرق الذي في وسط القوس فيصيب الهدف. وكان إذا خلولق الوتر وأرادوا أن يبدلوه بجديد أخذوا القديم وقلدوه في البعير، يزعمون أنه يقي من العين، ولذلك قال لا يبقين قلادة من وتر، لأن هذا عادتهم، وإلا يعني ليس حصرا للقلادة في الوتر، ولكن هذا بناء على الغالب. قال أو قلادة، وهذا شك من الراوي، وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة، أو هو من باب التنويع فتكون أو بمعنى الواو، لا يبقين قلادة من وتر أو قلادة من أي نوع كان، سواء كانت من الوتر أو غيره، فيكون من باب التنويع، فيدل على نوع القلادة مطلقا إذا كان القصد منها دفع العين أو اعتقاد أنها تدفع الشر عن البعير، فهذا اعتقاد جاهلي، لأنه لا يدفع الشر إلا الله، لا يدفع الشر إلا الله، وهذه القلادة لا أثر لها سواء كانت من الوتر أو من غيره إلا قطعت، وهذا فيه إزالة المنكر، وفيه أن السلطان أو ولي الأمر يزيل المنكر بيده أو بأي وسيلة، وإنكار المنكر على درجات. Donc on va traduire jusqu'ici et puis on va continuer après. Donc ici Cheikh il rapporte, donc premièrement il cite le hadith et il dit qu'il est rapporté selon Abu Bashir al-Ansari, c'est un noble compagnon. Et il dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour transmettre un message de sa part. Et ce message, c'était que personne ne laisse dans le cou d'un animal un collier, peu importe que ce soit d'une corde d'arc ou d'autres choses, excepté qu'il devait la couper. Hein, il devait le couper. Parce que dans l'habitude des gens de la Jahiliya, qu'ils accrochaient des choses dans le cou des bêtes pour repousser le mauvais œil. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu interdire cette tradition pré-islamique qui est en opposition avec le tawhid, et c'est pour cette raison qu'il a ordonné que ces colliers-là soient coupés. Et il explique le cheikh que le musulman, c'est obligatoire pour lui de mettre sa confiance en Allah et d'accrocher son cœur à Allah seulement. Et il ne doit donc utiliser comme remède ou comme prévention que ce qui a été permis par la révélation. Et donc, il n'y a pas de mal d'utiliser des remèdes pour prévention ou bien pour guérir d'une maladie par la permission d'Allah, mais dans les limites de ce qui a été permis par la révélation divine. Et là dans ce hadith, le prophète sallam a dit « la yabqiyanna » ou bien « la yabqiyanna ». Yani, là, c'est un « la » négatif, un « la » pour l'interdiction. Hein, on dit « la nahiya » en arabe. Parce que il y a un la qui peut être nafia et un la qui peut être nahia. Et nafia, ça veut dire négation, et nahia, ça veut dire interdiction. Donc, ici, le cheikh explique que le la, c'est un la d'interdiction. Donc c'est pour interdire. Et yabqayanna, c'est un verbe qui vient du verbe baqa, yabqa. Hein? Et baqiya, hein? Baqiya yabqa, qui veut dire de rester ou de laisser. Hein? Abqa yubqi, dans la forme transitive. Et donc ici, la yabqayanna, c'est un verbe et il est utilisé avec le la nahia. Quand le la est nahia, il est jazim. Il est jazim. Et le verbe qui le suit va être majzoum. Ça, c'est des termes de la grammaire. Donc ça, il faut l'étudier pour comprendre. Hein. Et quand le verbe est majzoum, en général, si c'est un fi'l mudari, il va prendre un sukun. Hein, selon la personne, bien entendu, mais si c'est la troisième personne, ou bien la troisième personne ici, la yubqi, hein, ce serait une kasra, une sukun, parce que le jazm, c'est à la base par une sukun, ou bien par hadf, un noun, hadf un noun, ou bien hadf harf al-illa. Ala kulli hal, ici il est majzoum, le verbe yabqayanna, il est majzoum, sauf que le cheikh il explique que à cause du noun at-tawkid qui est attaché au verbe à la fin, et le noun at-tawkid c'est un noun qui est là dans le but de rajouter plus d'intensité, plus de force au verbe. Donc c'est comme pour rajouter plus de comme si pour dire, pour confirmer encore plus l'interdiction. La yabqayanna. Donc il aurait pu dire la yabqa, hein, ou la yubqi. Mais il a rajouté nun at-tawkid pour rajouter encore plus de fermeté, plus de hein, pour dire que c'est encore plus déterminé, plus sévère encore. Plus sérieux encore. La yabqayan, c'est-à-dire, c'est confirmé là. Et à cause de ce nun at-tawkid, on ne voit pas le jazm. Et c'est nun at-tawkid al-thaqila, le cheikh il dit, nun at-tawkid al-thaqila, parce qu'il y a une shadda dessus. Hein? Et il dit donc que al-qilada, donc ici dans le hadith, في رقبة بعير قلادة. القلادة, c'est qu'est-ce qui a accroché au cou de la bête ou de l'animal ou d'un être humain. Donc قلادة, on peut dire un collier, hein? On peut dire tout ce qui est accroché dans le cou de quelqu'un, on l'appelle قلادة. Donc ça vient du verbe قلد يقلد, hein? Et le mot تقليد, ça vient de là aussi. قلادة, c'est le masdar. Taqlid, c'est le masdar de qallada yuqallidu, et al-qilada, donc ça vient de là, le collier, le fait d'accrocher quelque chose, hein, ou de faire pendre quelque chose au cou. Et donc ici le cheikh explique que ils accrochaient donc des colliers ou des cordes au cou des bêtes, et ici on parle en particulier de al-watar. Et à l'Ouattar, on a expliqué tout à l'heure que c'était la corde de l'arc. Et c'est la corde qu'on place dans l'arc. Hein. L'arc, on sait que c'est un morceau de bois, hein, qui est courbé, hein, en forme de... Il y en a un bois qui est courbé, qui est tendu, et on tire sur cette pièce de bois qui est courbée pour accrocher une corde après. Et ça fait en sorte que la corde devient raide. Et à partir de ce moment-là, hein, on peut justement accrocher une flèche, hein, sur cette corde, et en tendant la corde, on crée donc une tension, et en lâchant la corde, eh bien, l'énergie qui est dégagée par justement la corde qu'on lâche, eh bien, elle fait que la flèche est propulsée, hein, Vous connaissez le principe. Donc, c'est ce que le cheikh a expliqué ici. Et c'est avec ça que les gens tiraient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chasser. Hein, quand ils allaient à la chasse, hein, ils n'avaient pas à cette époque encore de fusils ou des pistolets ou des choses comme ça. Alors, ils utilisaient des arcs et des flèches. Et quand la corde commençait à devenir usée, il la remplaçait par une autre et il prenait l'ancienne et il l'accrochait au cou de l'animal, pensant que cela pouvait les protéger contre le mauvais œil. C'est une tradition de la Jahiliya. Et il dit par contre, c'est pas mentionné ici une corde comme étant une corde d'arc pour que ce soit restrictif. Hein, dans le sens que c'est pas spécifique seulement pour la corde de l'arc, ça peut être n'importe quelle autre corde ou n'importe quel autre collier qui est placé dans le cou d'un animal ou d'une personne dans le but de protéger la personne contre le mauvais œil ou la sorcellerie ou autre chose. Hein? Et le cheikh explique que dans le hadith, il y a la mention de soit un collier fait avec une corde ou un collier tout court. Et le cheikh, il a expliqué que le fait qu'on ait mentionné ou un collier, il dit il faut comprendre ici que soit que ça veut dire que c'est un collier fait avec une corde d'arc ou n'importe quel autre collier qui est fait avec n'importe quelle corde ou n'importe quelle autre chose, ou bien c'est dans le sens de dans le but de rajouter une différente sorte de corde, c'est-à-dire soit une corde d'arc ou bien une autre collier, autre chose. Dans les deux sens, c'est pour dire, parce que il y a eu le narrateur qui a dit au, ça veut dire où, donc ça ou ça. Tandis que dans une autre narration, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait ça et ça. Alors, c'est pas dans le sens du doute ici de la part du narrateur, mais juste pour mentionner que ça comprend toutes les différentes catégories de colliers ou de cordes qui peuvent être placées autour du cou d'un animal ou d'un être humain. Ensuite, le cheikh explique que donc c'est général et que toutes les cordes ou toutes les choses placées dans le cou dans cette intention ou dans ce but sont des choses qui sont interdites, peu importe la matière ou l'origine de cette corde ou de ce collier. Il dit pourquoi? Parce que c'est une croyance, c'est basé sur une croyance yani de shirk, une croyance de la jahiliya, de l'époque pré-islamique, puisque les gens s'imaginaient que cette corde pouvait protéger contre un mal, alors que personne peut repousser un mal ou protéger contre un mal, excepté Allah. Ça, c'est la croyance du musulman. Le musulman, pardon, le musulman, il doit être convaincu que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le protéger contre le mal de façon générale. Et ces colliers-là n'ont donc aucun effet. Ils ne peuvent donc pas protéger contre le mal, contre le mauvais œil ou autre, que ce soit une corde d'arc ou bien n'importe quel autre collier. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il a dit excepté que on doit le couper. Hein, tu dois le couper, c'est-à-dire tu dois l'enlever et le détruire. Et ça fait partie d'éliminer ou d'enlever un mal. Et le cheikh, il spécifie ici que, bien entendu, c'est quelque chose qui est réservé au dirigeant ou à celui qui a une autorité. Par exemple, quelqu'un qui est chez lui trouve une corde ou une amulette ou un talisman ou des choses de ce genre dans sa maison, il peut le prendre et le détruire. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation, parce qu'il est chez lui, et chez lui, il est le chef, hein, il est maître chez lui. S'il le trouve sur son enfant, il l'enlève, il peut l'enlever et puis le jeter. Il n'y a pas de problème avec ça. Toutefois, si c'est dehors, hein, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un avec ça dans son cou, hein, tu ne peux pas juste aller sur cette personne et lui arracher ça dans son cou directement. Puisque, bien entendu, ça risque de faire des problèmes. Hein? Donc, dans des cas comme ça, il faut pas procéder de cette manière. Et ça, c'est des choses que les ulama, ils comprennent. Et les ulama, ils savent. Parce qu'il y a des principes dans la religion, il y a des règles dans la religion. Parfois, ces règles-là ne sont pas nécessairement mentionnées dans tous les hadiths qui parlent de ces sujets-là. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils prennent le hadith tout seul, puis ils s'imaginent qu'il faut l'appliquer de cette manière, sans tenir compte que les hadiths se complètent les uns les autres, et les versets se complètent les uns les autres. De même que les hadiths complètent parfois le sens des versets aussi. Donc, l'ignorant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hadith, il dit, ah bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il va aller dans la rue, il va voir quelqu'un avec un collier ou quoi, et il va l'arracher. Pourquoi? Parce que il a rien compris. Il comprend pas la religion. Il est bête, hein, ou ignorant. Il prend un seul hadith tout seul et il ne prend pas compte ou il ne tient pas compte des autres versets, hein, qui parlent de ce sujet-là et des hadiths qui parlent de ce sujet-là. Puis il va agir d'une manière qui va lui faire du tort à lui et qui va faire du tort aux autres. Alors le cheikh explique que pour changer le mal avec la main, il faut, hein, parce qu'il y a des degrés dans... le fait de changer le mal ou d'interdire le mal, et que pour interdire le mal par la main, il faut avoir l'autorité, il faut avoir le pouvoir. Et vous connaissez le hadith, hein? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Donc le dirigeant, lui, il a l'autorité, hein? Si c'est la police, si c'est les responsables, hein, ceux qui ont une autorité, les gouverneurs, eux, ils ont l'autorité de changer le mal avec la main. Mais en ce qui concerne une personne X ou Y dans la rue, comme ça, elle n'a pas cette autorité-là de faire ça. Donc le cheikh, il dit, « Imma, yani, inkaru al-munkar ala darajat, imma bil-yad » les sahib sulta wa imma bil lisan liman laysa lahu sulta wa imma bil qalb liman la yaqdir ala athnatayn ala athnatayn fa fi hadha inkar lil munkar bil yad liman yaqdir ala dhalik wa man' wasa'il al shirk amma idha kanat al qilada laysa fiha i'tiqad la mani' minha idha qallad al ba'ir min ajli an yu'raf mathalan خصوصا قلائد الهدي لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد يعني كانت من عادة الحجاج والمعتمرين الذين يهدون البدن البدنة يعني لكي تذبح عبادة لله عز وجل في الحرم وكانوا يقلدونها يعني يجعلون عليها قلائد حتى يعرفوا من رآها أنها هدي يعني فلا يتعرض لها. فإذا كانت القلادة عن قصد صحيح وهدف مباح فلا بأس منها. أما إذا كانت القلادة من قصد شركي أو اعتقاد شركي فهذه التي تمنع. Donc ici, le cheikh, il dit que les degrés pour changer le mal, Hein? C'est, bien entendu, le premier, c'est par la main, lorsque quelqu'un a l'autorité. Puis par la langue, pour celui qui n'a pas d'autorité. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire si tu vois quelqu'un qui porte un objet comme ça, ou quelque chose qui, un talisman? C'est d'aller parler avec la personne. Si tu connais les preuves, tu connais les explications, tu vas aller parler avec la personne, puis tu lui expliques, tu lui dis, ça c'est shirk, ça c'est pas permis mon frère. Hein? Ou une femme, si c'est une femme, elle dit à la femme, ça c'est pas permis ma sœur, hein? C'est du shirk. Et ensuite, le cheikh, il explique que si tu peux, si tu as l'autorité, tu changes par la main. Si tu n'as pas l'autorité, tu peux changer par la langue. Et si tu n'es pas capable de changer ni par la main ni par la langue, eh bien, le minimum, c'est de détester cette chose par ton cœur et de souhaiter la changer si tu avais la capacité. Donc, c'est ça. Et le cheikh, il dit, فَفِي هَذَا إِنْكَارٌ لِلْمُنْكَرْ بِالْيَدْ لِمَنْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ. Donc ça rentre dans le fait d'interdire les choses qui amènent au shirk ou qui sont des causes pour le shirk. Il dit toutefois, si c'est des choses qu'on a accrochées sur l'animal mais qui n'ont pas un lien avec une croyance quelconque, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal d'accrocher quoi que ce soit sur l'animal pour le reconnaître, hein, pour être capable de le reconnaître ou de le distinguer. Il dit comme par exemple ce qu'on accroche au cou des bêtes lorsqu'on les envoie comme offrande à la Mecque. Par exemple, pour le sacrifice, lorsque on va faire le Hajj. Et l'exemple de ça, c'est ce que le Cheikh a mentionné dans le verset 2, dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce sujet-là dans le verset. Hein, et il dit, وَلَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدِ. Et le mot qala'id, c'est le pluriel du mot qilada. Qilada qui veut dire le collier, hein, les choses accrochées au cou. Donc, ici, ça a été traduit dans le texte, dans la traduction des sens du Coran en français. Ils ont traduit le mot qala'id par guirlande. Donc, c'est une traduction, mais la réalité, c'est comme al-qala'id, comme on a dit, c'est le pluriel du mot qilada, qui veut dire un collier, okay? Qu'est-ce qu'on accroche au cou. Et le cheikh, il explique ça, parce que ici, c'est mentionné dans le verset, ô vous qui avez cru, ne profanez pas les rites du pèlerinage, hein? Dans les endroits sacrés d'Allah. Ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice. Oui, c'est ça. Ni les guirlandes. C'est ça. Voilà l'hadia. L'hadia, c'est les sacrifices. Voilà l'qala'id. L'qala'id, c'est qu'est-ce qu'ils ont traduit par les guirlandes. Ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée. Ala kulli hal, donc ça c'est l'explication ici. Puis le cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire que l'habitude était que les personnes qui partaient pour faire le hajj ou pour faire la umrah et qui avaient l'intention de ramener une vache pour offrande, hein, pour sacrifice, pour qu'elle soit égorgé, hein, par adoration pour Allah Azza wa Jal dans le sanctuaire, c'est-à-dire la mosquée sacrée, il lui mettait une chose autour du cou pour distinguer, c'est-à-dire pour que les gens, quand ils la voient, sachent que c'est une offrande, hein. Donc on peut pas l'utiliser pour autre chose, elle s'en va pour, hein, pour être offerte en offrande. Alors, pour que les gens, quand ils la voient, donc, ils ne la touchent pas. Et il dit, si, ça c'est la preuve que si quelqu'un a accroché un collier ou quelque chose quelconque sur la bête avec une intention qui est bonne et qui est permise dans l'islam, dans la charia, alors il n'y a pas de mal dans ce cas-là. Tandis que si c'est des choses qui sont accrochées sur l'animal avec une intention de shirk ou une croyance de shirk, alors c'est dans ce cas-là que on doit l'interdire. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.